Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de doctrine pour adultes. En cette année, nous étudions l'histoire de l'Église et nous en sommes arrivés ce soir à contempler la décadence chrétienne. Vous allez voir, cela ne manque pas d'histoire dans l'histoire, justement. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, si vous vous souvenez, le mois dernier, nous avions étudié l'apogée de l'Église catholique lors du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, avec aussi l'apogée de la papauté, là où elle a eu le plus d'autorité en Occident, disons, avec toute l'histoire aussi des croisades, les grands saints, la grande théologie qui s'est développée durant ce Moyen-Âge, qui est vraiment l'âge de la chrétienté par excellence. Mais comme toute chose en ce monde, eh bien, toute bonne chose a une fin. Et ce soir, nous devons voir que eh bien, l'Église, cette gloire de l'Église n'a pas duré tellement longtemps, puisque nous allons voir aujourd'hui la fin du Moyen-Âge, donc de 1903 à 1517. Bon, on a, vous voyez, deux siècles à brosser ce soir, où nous allons justement nous apercevoir que l'Église a traversé une sorte de décadence dans certains domaines, bien sûr, pas dans tous, c'est clair. Il faut voir, en contemplant cette période du 14e et 15e siècle, nous voir une fois de plus que l'Église n'a pas été épargnée par les croix, par les épreuves, épreuves souvent qui ont été présentes à cause des hommes d'Église, non plus épreuves venant de l'extérieur de l'Église, comme par exemple les trois siècles de persécution au début de l'histoire de l'Église, mais là, c'est au sein de l'Église même où il va avoir des croix et de personnes donc bien présentes dans l'Église. Alors avant de voir différentes histoires dans l'histoire, comme on disait tout à l'heure, il nous faut parler des papes d'Avignon, histoire que vous connaissez peut-être, qui a marqué les esprits, qui a marqué l'histoire de l'Église, évidemment, puisque ce n'est pas commun, le fait que le pape ait habité pendant 70 ans en dehors de Rome. Vous savez que, en raison du martyre de Saint-Pierre et Saint-Paul dans la ville éternelle, dans la ville de Rome, la papauté s'est installée justement à Rome, et le pape est toujours l'évêque de cette ville. Et voilà pourquoi il est tout à fait légitime, normal, que le pape habite Rome. Sauf que durant cette période, donc de 1305 à 1377, eh bien, plusieurs papes ne seront pas à Rome, mais bien à Avignon, et on va voir pourquoi justement. Vous savez qu'en France, à cette époque, donc nous sommes en 1305, c'est le roi Philippe le Bel qui dirige le royaume de France, et usant de son crédit, il obtint l'élection d'un pape français lors du conclave. Et l'homme élu prit le nom donc de Clément, Clément V. En effet, à Rome et en Italie, il y avait beaucoup de discordes civiles. Et donc le pape, pour justement s'y soustraire, se fixa en France et commença la série des sept pontifes français qui résidèrent à Avignon, hein, dans la ville, dans le sud de la France. Et ce séjour des papes hors de Rome, justement, a été appelé la nouvelle captivité de Babylone. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les Juifs de Jérusalem, de la Terre Sainte, furent exilés pendant 70 ans, donc en dehors de leur pays, à Babylone. Et certains ont appelé cette période des papes à Avignon la nouvelle captivité de Babylone, puisque elle dura 70 ans, mais aussi parce que cette captivité, entre guillemets, entraîna beaucoup de malheur dans l'Église, on va le voir. En effet, la situation humiliée des papes d'Avignon, il faut bien se rendre compte qu'ils étaient quand même sous la coupe des rois de France, sous la domination des rois de France, va diminuer le prestige de la papauté. Après l'apogée de la papauté lors du Moyen-Âge, 12e et 13e siècle, eh bien la papauté va décliner, en tout cas son autorité sur l'Église. Et de fait, va empêcher le pape de s'opposer efficacement au grand schisme d'Occident. On le verra dans quelques instants, cette période trouble dans l'Église où il y eut trois papes en même temps. Je voudrais vous donner un exemple de soumission du pape à cette époque, soumission du pape au roi de France. Pour plaire au roi, donc Clément V va supprimer l'ordre des Templiers en 1312, dont l'oisiveté et les richesses avaient amené la décadence des mœurs. Il ne faut pas le négliger, le relâchement des mœurs. C'est Philippe le Bel qui lorgnait aussi sur ses biens, sur les richesses de cet ordre qui était gigantesque, eh bien, va pousser le pape à supprimer cet ordre, et c'est ce qui va se passer, vous le savez. Après Clément V, va lui succéder Jean XXII, donc de 1316 à 1334. Jean XXII sera élu après 2 ans de pourparlers, 2 ans de conclave, si vous voulez, de pourparlers entre les cardinaux. Il va donc arriver sur le siège de Pierre, toujours à Avignon, bien sûr, et il va se réserver la nomination des évêques, alors qu'auparavant, les évêques étaient élus par les chanoines. Il va aussi se réserver l'élection des abbés, des abbayes, vous savez, les pères abbés, alors que autrefois ils étaient élus par leurs propres moines. Donc c'est une des réformes de Jean XXII. Un autre épisode marqua son pontificat, c'est qu'il va excommunier Louis de Bavière, nouvel empereur, qui avait justement exercé ses droits d'empereur avant la confirmation de son élection par le Saint-Siège. Le pape devait confirmer l'élection de l'empereur avant que celui-ci ne puisse exercer son pouvoir. Alors, Louis de Bavière, évidemment, vexé et puis en colère, marcha sur Rome, reçut la couronne des mains d'un évêque excommunié, et il fit même élire un antipape. Alors attention, ça ne va pas créer le grand schisme d'Occident, bien sûr. L'antipape ne va pas durer très longtemps, puisque le successeur de Louis de Bavière, Charles IV, régla définitivement justement les formalités de l'élection impériale. Il va écrire ce qu'on appelle la célèbre bulle d'or en 1356, et qui va justement demander à ce que le couronnement de l'empereur se fasse à Aix-la-Chapelle et non plus à Rome, et indépendamment de l'intervention du pape. Donc voilà, c'était fixé définitivement grâce à Charles IV, juste après Louis de Bavière. Après donc le pape Jean XXII, lui succéda Clément VI, donc 1342-1352, et lui secourut les malheureux atteints de la peste noire qui a ravagé l'Europe durant cette période. Il défendit aussi les Juifs qui étaient pourchassés par les foules, puisqu'ils étaient accusés d'être la cause de cette peste noire, accusés d'avoir empoisonné les sources. Et le pape Clément VI ainsi que l'Église, justement, défendit les Juifs. Innocent VI va succéder donc à Clément VI. Innocent VI, 1352-1362, réussit à rétablir son autorité sur les états de l'Église. Vous savez qu'à l'époque, déjà, l'Église, depuis Pépin le Bref, l'Église avait des états géographiques sur lesquels il avait le pouvoir politique. Et Innocent VI va reprendre autorité donc dans ces états de l'Église. Et son successeur, le bienheureux Urbain V, 1362-1370, va se rendre à Rome en 1368 pour pouvoir de nouveau s'établir à Rome. Mais il ne va pas pouvoir s'y maintenir, retourna à Avignon et y mourut. En revanche, Grégoire XI, qui va succéder donc au bienheureux Urbain V, Grégoire XI, lui, sous les instances de Sainte Catherine de Sienne, une grande sainte de l'époque, qui a mis toutes ses forces pour le retour du pape à Rome, eh bien, elle va y arriver puisque Grégoire XI, 1370-1378, retourna à Rome donc en 1377. C'est lui qui va clôturer cette succession de pontifes à Avignon. Là s'arrêtent donc les papes d'Avignon avec Grégoire XI, grâce entre autres à Sainte Catherine de Sienne. On voit que le bon Dieu veille sur son Église grâce à des âmes d'élite, à cette sainte hein, qui a eu beaucoup de révélations de la part de notre Seigneur, mais aussi a eu un rôle très politique, si je puis dire, au sein de l'Église pour le retour du pape à Rome. Mais vous allez voir que, évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque c'est maintenant que va éclater le grand schisme d'Occident. Je vous donne les dates de ce grand schisme, ces dates qu'ils sont à retenir, puisque cette histoire, comme je vous le disais tout à l'heure, va marquer profondément l'Église. Le grand schisme dura de 1378 à 1417. Et donc c'est assez conséquent. Et il faut bien comprendre les tenants et aboutissants de cette histoire. Comment on en est arrivé à avoir trois papes dans la même période, en même temps. Après la mort de Grégoire XI, donc, qui, rappelez-vous, est le pape qui est revenu à Rome, les cardinaux vont se rassembler en conclave pour pouvoir élire le nouveau pape. Et à travers, parmi ces cardinaux, il y avait 17 cardinaux français, sur 23, ce qui est assez conséquent. Les cardinaux français se sentirent oppressés par les cardinaux romains, ces cardinaux romains qui réclamaient un pape italien. Ils en avaient assez des papes français qu'on a connus à Avignon. Il fallait élire un pape romain, italien. Et donc, ils élurent le pape napolitain Urbain VI. Très bien, Urbain VI monte sur la chaire de Saint-Pierre. Mais malheureusement, le nouveau pape manqua de modération dans sa gérance, manqua aussi de prudence. Et donc les 13 cardinaux français vont se séparer de lui, vont faire un schisme, si vous voulez, entre guillemets, et ils vont se séparer alléguant qu'ils ont été poussés, que leur choix n'a pas été libre dans l'élection de ce pape. Parce que, souvenez-vous, les Italiens les avaient un peu pressés, d'élire un pape italien, donc ces cardinaux français ne se sont pas du tout sentis libres. Ils vont élire un pape parmi eux qui prendra le nom de Clément VII. Celui-ci choisit évidemment Avignon comme résidence. Nous sommes en 1378. Voilà donc l'Église qui eut à cette époque deux papes en même temps. Donc Urbain VI qui est à Rome, et Clément VII qui va se fixer à Avignon. Évidemment, les partisans se regroupèrent selon qu'ils étaient pour ou contre la France, évidemment. Le pape de Rome eut autour de lui, comme partisans, l'Italie du centre, l'Italie du nord aussi, l'Empire d'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, les États scandinaves, l'Angleterre et l'Irlande. Alors que le pape d'Avignon, Clément VII, eut lui, bien sûr, la France derrière lui qui le soutenait, l'Écosse ainsi que l'Espagne et le royaume de Naples, évidemment. Les deux papes eurent des successeurs pendant 40 ans. Vous voyez, donc pendant 40 ans, chaque pape vont avoir des successeurs et la division se prolongea donc. C'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. Entre ces deux séries de papes, l'Église ne s'est jamais prononcée formellement. Qui est le vrai pape? On peut trouver un peu la liste, hein, bien sûr, des papes d'Avignon, des papes de Rome à cette époque. Il y avait des saints, vous le savez peut-être, il y avait des saints dans les deux obédiences, d'accord? Certains soutenaient Clément VII, d'autres Urbain VI. Vous voyez, c'est pas très clair. Je vous donne quelques exemples. les saints qui soutenaient le pape de Rome, Urbain VI, il y a Sainte Catherine de Sienne, bien évidemment, qui avait poussé pour le retour du pape à Rome. Il y a Saint Jean Népomucène, Saint Jean de Capistran aussi, on en reparlera tout à l'heure. Et pour le pape d'Avignon, pour Clément VII, il y avait Saint Vincent Ferrier, un grand prédicateur, qui va soutenir donc le pape d'Avignon, Saint Pierre de Luxembourg, Sainte Colette aussi, qui donc était pour le pape français. Durant ce schisme, et en vue d'y mettre fin, parce que c'était un poids, bien sûr, pour l'Église, se développa une grave erreur, on en reparlera un petit peu aussi, on appelle ça la théorie conciliaire, qui plaçait en fait le concile au-dessus du pape. L'autorité du concile, c'est la réunion de tous les évêques de l'Église, et il place, cette théorie place l'autorité du concile au-dessus de l'autorité du pape. Évidemment que c'est faux, hein, le pape à lui seul, à l'autorité de Saint-Pierre reçue de notre Seigneur, c'est lui qui est à la tête de l'Église et non pas le concile. Faisons bien attention à cela, mais on en reparlera. Comme je vous le disais à l'instant, tout le monde chrétien, désirait vivement le rétablissement de l'unité dans l'Église, puisque évidemment les chrétiens étaient divisés. On peut imaginer les discussions à table, qui était pour qui, bref. L'université de Paris, vous savez, une des trois puissances dans la chrétienté à cette époque, il y avait donc l'université de Paris, qui d'ailleurs, c'est elle qui va condamner Sainte Jeanne d'Arc, qui va juger Sainte Jeanne d'Arc. L'université de Paris organisa un référendum sur les moyens de terminer, d'achever ce schisme. Hein. Ils vont voter pour choisir un des moyens pour arrêter cela. On proposa donc trois moyens. Le premier était de la démission des deux papes, leur demander la démission. Le deuxième moyen, c'était de construire, d'établir un tribunal d'arbitrage afin de pencher plutôt pour tel ou tel pape. Et le troisième moyen, c'était qu'un concile tranche le débat entre les deux rivaux. Aucun des deux papes, évidemment, ne consentit à démissionner. Alors, poussé par l'opinion publique, sept cardinaux français et sept cardinaux italiens vont se réunir et pour justement convoquer un concile. Or, vous le savez peut-être, il n'y a que le pape qui a autorité pour convoquer un concile général. Les conciles régionaux, c'est en dehors de l'autorité du pape, mais un concile universel, concile général, c'est justement le pape qui a autorité pour justement le convoquer. Malgré cela, les sept cardinaux français et les sept cardinaux italiens vont se réunir, sans l'autorisation d'un des deux papes, ils vont se réunir donc en concile à Pise en 1409. C'est le fameux concile de Pise. Ce concile déposa les deux papes et en élut un troisième, le fameux Jean XXIII. Hein. Un antipape, c'est pour ça que le pape qui a succédé au pape Paul VI a pris le nom de Jean XXIII. Donc ce pape élu au concile de Pise, le fameux Jean XXIII, va devenir le troisième pape dans l'Église, puisque vous en doutez que les deux premiers papes refusèrent d'abdiquer. Il y eut donc trois papes au même moment dans l'Église. Et cet état de choses dura pendant cinq ans, quand même. Pendant cinq ans, l'Église était divisée en trois. Alors, le pape de Rome conservait, bien sûr, l'Italie. Celui d'Avignon conservait la France, l'Écosse et l'Espagne. Et le pape de Pise l'emportait par le nombre de ses partisans, puisque, comme on le disait tout à l'heure, les chrétiens commençaient à en avoir marre, voulaient mettre fin à cette division, et donc ont soutenu le pape de Pise, pensant que c'était le pape légitime, puisque les deux autres avaient été mis de côté. Ce pape, donc Jean XXIII, le pape de Pise, finit par convoquer un concile à Constance, à côté du fameux lac de Constance. Ce concile eut lieu donc en 1414. Que va décider le concile? Parce qu'il faut passer à l'acte, il faut prendre une décision. le concile va décider la démission des trois papes. Celui de Rome la donna noblement. Il abdiqua. Celui de Pise et d'Avignon, ceux de Pise et d'Avignon, en revanche, l'ayant obstinément refusé, furent déposés et bientôt, en fait, abandonnés par leurs partisans. Ils se retrouvèrent tout seuls, et donc seuls, ils ne pouvaient plus rien faire. Et ils ont, si vous voulez, pas disparu dans la nature, mais je crois qu'il y en a un qui a fini par abdiquer finalement. Après donc avoir dissolu les trois papes, le concile de Constance va élire donc un nouveau pape, Martin V. Nous sommes en 1417, fin du grand schisme d'Occident. Martin V va marquer l'histoire, évidemment, puisqu'il va devoir reprendre une église divisée. C'est lui qui va mettre fin à ce schisme. Le nouveau pape, donc Martin V, approuva les décisions du concile, au sujet des trois papes, bien sûr, puis d'autres discussions. Il va donc approuver quelques décisions, sauf celles qui favorisaient justement la théorie conciliaire. Et il conclut aussi avec chaque nation des concordats, etc. Bon, il va remettre de l'ordre. Mais voyez-vous, pendant tout ce grand schisme d'Occident, eh bien, l'Église était rongée de l'intérieur par d'autres soucis. Il faut maintenant en parler. Nous voici arrivés donc aux luttes contre l'erreur et l'ambition à la fin du Moyen-Âge. Il nous faut parler de deux hérésies qui ont surgi au XIVe et XVe siècle. La première hérésie, c'est celle de Wycliffe. Et je voulais vous dire avant que les deux hérésies dont on va parler ont pour source, ont pour origine l'université, puisque la source de ces deux hérésies, c'est que la science prétendait réformer l'Église. Vous voyez, on est déjà un peu dans ce scientisme-là. La science, la raison plus forte que la foi veut prendre le dessus de l'Église. Alors ce fameux Wycliffe, 1324-1384, était prêtre, était docteur de l'université d'Oxford, mais il était surtout très ambitieux. Et n'ayant pas obtenu les dignités ecclésiastiques qu'il désirait, qu'il convoitait, il se tourna contre l'Église, il se tourna contre le pape, à l'époque du grand schisme, et il combattit aussi en flattant l'opposition anglaise face à la fiscalité pontificale. Les Anglais étaient contre cela, et Wycliffe va en profiter pour faire mousser tout le monde. Mais voyez, à sa révolte contre l'autorité, il s'est révolté contre l'autorité, arrive très souvent une révolte donc contre... il va ajouter l'erreur. Très souvent, quand on commence à aller contre l'autorité, on finit par tomber dans l'erreur. L'erreur au sujet du dogme, au sujet de la foi. Il enseigna le fatalisme de la prédestination. Il enseigna que dans l'Église catholique, il y a une prédestination. Vous êtes né pour l'enfer, et vous, pour le ciel. Il y a, quoi que vous fassiez, vous êtes prédestiné. Il va aussi enseigner le panthéisme, hein, une sorte de présence de la divinité dans chaque chose. Voilà le panthéisme, en gros. À l'époque du grand schisme, il aggrava son opposition face à l'autorité de l'Église, et il va attaquer aussi, bien sûr, les sacrements, les ordres religieux, les indulgences, etc. Pour répandre ces doctrines malfaisantes, il créa une petite société qu'on appelle les pauvres prêtres et qui sera appelée les semeurs d'ivraies. Vous voyez, comme selon la parabole de notre Seigneur, cet ivraie qui pousse au milieu du bon grain, bien les partisans de Wycliffe seront vraiment cet ivraie qui vont faire du mal dans l'Église. Il mourut en 1384 dans son erreur. Le concile de Constance, souvenez-vous, donc en 1414-1415, condamna les erreurs de Wycliffe, poursuit tous ses partisans qui vont rapidement disparaître. Voilà donc la première hérésie, celle de Wycliffe. Mais ce n'est pas fini, vous en doutez. Une deuxième hérésie qui découle de celle de Wycliffe, puisqu'elle va surgir avec un certain professeur tchèque professeur à Prague, Jean Hus, 1339-1415. Jean Hus était un grand prédicateur, éloquent, mais aussi partisan des doctrines de Wycliffe, et c'est ce qui va le perdre, justement. Il était soutenu dans ses théories par l'autorité civile, mais aussi, vous voyez, par le peuple, par le sentiment populaire. Il sera condamné par son archevêque. Il consentit alors à aller au concile de Constance pour comparaître devant le concile, et il refusa de se rétracter alors qu'on l'avait condamné, et il mourut tout simplement sur le bûcher, comme cela se faisait à l'époque, pour ceux qui ne voulaient pas se rétracter. Ses partisans, donc de Jean Hus, pour se venger, prirent les armes et pendant des années couvrirent la Bohême et ses régions de violence, de sang et de ruines, donc de 1419 à 1436. Et puis, ses partisans, s'étant divisés en deux, vont disparaître petit à petit, et la paix se rétablit donc en 1436. Voilà donc pour les deux hérésies qui ont fait quand même du mal, bien sûr, dans l'Église, qui va l'affaiblir, hein, contre laquelle l'Église va devoir se défendre. Mais d'autres ennemis, donc là pour le coup, en dehors de l'Église, font rage. Voyons maintenant l'Église et les autres nations qui l'entourent, les combats que l'Église va mener lors de ces 14e et 15e siècles. À la fin du 13e siècle, vous le savez peut-être, les Turcs ottomans, donc musulmans, avaient occupé une grande partie de l'Asie mineure et ont fondé l'Empire, qui porte leur nom, l'Empire ottoman. En plus de cela, tous les pays balkans tombèrent aux mains des Turcs. Petit à petit, ils avançaient avec force et violence vers l'Europe. Ils menacèrent bientôt la Hongrie, et le roi de Hongrie, donc Sigismond, trop faible pour leur résister, fit appel justement aux chrétiens d'Occident pour combattre les Turcs qui avançaient. Alors, sous la conduite de Jean Sans Peur, duc de Bourgogne, beaucoup de nombreux chevaliers accoururent et leur rencontrèrent les Turcs à Nicopolis, en Bulgarie. Mais vous voyez, leur téméraire bravoure et surtout leur indiscipline, comme d'habitude, va entraîner leur défaite face aux Turcs, qui vont donc continuer à avancer sur l'Europe. Mais heureusement pour l'Europe entière, de l'autre côté, en Asie mineure, les Mongols commençaient à envahir l'Empire ottoman. Et donc les Turcs vont devoir rebrousser chemin pour combattre les Mongols qui attaquaient donc de l'autre côté de leur empire. Nous sommes en 1402. Les Mongols donc s'étant retirés petit à petit après plusieurs histoires, après la mort de Tamerlan, leur chef, les Turcs redevinrent menaçants pour Constantinople, la fameuse capitale, hein, souvenez-vous, de l'Église d'Orient et des orthodoxes. Il est à noter qu'au concile de Florence, les Grecs avaient consenti à une certaine union. Les Grecs orthodoxes avaient consenti à une certaine union avec les catholiques pour se renforcer contre les Turcs. Mais le pape avait appelé à la croisade, donc les Turcs, mais en Occident, il n'y a pas beaucoup de réponses. Seuls les pays directement concernés vont se lever pour combattre, justement, l'invasion ottomane. Mais cela ne suffit pas, puisque en 1453, les Turcs s'emparèrent de Constantinople. Ça a été un traumatisme dans l'Église, mais aussi dans le monde occidental et oriental, puisque personne ne s'imaginait que Constantinople pouvait tomber comme cela sous les Turcs, et c'est ce qui est arrivé. Les Turcs pillèrent la ville, massacrèrent les habitants ou les réduisirent en esclavage, et bien sûr transformèrent la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée. Mais il est à noter, voyez-vous, que les Grecs orthodoxes s'étaient écriés lors du concile de Florence plutôt les Turcs que le pape. Hein. Ils avaient préféré la soumission ottomane que de s'unir au pape. Eh bien, leur vœu a été malheureusement exaucé. Alors, enivrés par leur victoire, les Turcs se considéraient comme les maîtres de toute la chrétienté. Mais heureusement, les papes de cette époque, énergiques, vont arrêter justement en provoquant une nouvelle croisade contre l'avancée des Turcs, et un franciscain bien connu, Saint Jean de Capistran, justement, va prêcher pour la croisade contre justement l'invasion ottomane. Je vous passe les détails, mais plusieurs batailles vont évidemment ralentir l'avancée des Turcs. Un peu plus au sud, nous sommes en Espagne. Souvenez-vous, nous en avons un petit peu parlé. Depuis 700 ans, les chrétiens d'Espagne soutenaient une lutte héroïque face aux musulmans, aux morts. Ils leur avaient infligé de nombreuses défaites, hein, les Espagnols, si on peut dire, si on peut les appeler ainsi à cette époque, se battaient courageusement contre les musulmans et avaient petit à petit repris du terrain. Et à la fin du 15e siècle, les musulmans ne possédaient plus que le royaume de Grenade. Mais la Reconquista n'était pas finie. Devenus souverains, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, qui vont s'épouser l'un l'autre, unir leurs efforts contre les musulmans et finir en fait par les chasser de Grenade. Nous sommes en 1492 et c'est pour cette raison que les souverains, donc Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, reçurent de la part du pontife régnant le titre de roi catholique, hein, le titre glorieux de roi catholique. Alors, toujours en Espagne, après la Reconquista définitive, ils vont continuer à expulser les juifs et les musulmans non convertis au christianisme. Et pour cela, Ferdinand et Isabelle Castille établirent ce qu'on appelle donc l'Inquisition, mais l'Inquisition espagnole, qui servait à surveiller les agissements de ceux qui restaient dans leurs états, hein, en Espagne. Attention, ce tribunal n'avait pas pour mission de forcer les gens non-catholiques à se convertir au catholicisme. Mais ce tribunal de l'Inquisition espagnole servait à protéger le pays, à protéger la nationalité contre justement les entreprises des juifs et des musulmans qui, soi-disant, s'étaient convertis au catholicisme, mais en fait s'étaient convertis pour rester en Espagne. Ils apostasiaient secrètement, ils commettaient des actes de vengeance et de profanation, et ils entretenaient l'esprit de révolte dans le pays. Et donc, le roi et la reine, pour protéger leur pays, va justement établir cette inquisition espagnole. Cette inquisition fut un tribunal mixte, comme vous en doutez, plus civil que religieux, évidemment. Il pourchassait plutôt ceux qui en voulaient à la paix nationale. Les souverains pontifes, les papes, blâmèrent souvent la rigueur excessive de cette inquisition. Ils rappelèrent les inquisitions aux règles de la tolérance chrétienne et allèrent même jusqu'à excommunier les inquisiteurs. Donc vous voyez, l'Église n'est pas responsable des violences qu'elle blâma elle-même lors de cette époque. Attention à ne pas confondre l'Inquisition, vous voyez, avec les dominicains, les franciscains, comme on a pu en parler l'autre jour donc en France, et l'Inquisition espagnole, qui a deux buts, deux fins différentes. À la même époque, il ne faut pas oublier que l'Église commençait bien sûr, continuer plutôt, son extension, hein, sur le monde. Les papes ne négligeaient pas l'évangélisation des peuples païens, hein, puisque le monde, on va le voir tout à l'heure, va s'élargir, la découverte de pays nouveaux. Et à la mort de Jean XXII, donc en 1334, on est au XIVe siècle, l'Asie comptait autant de missions que de souveraineté politique. Hein. La chrétienté s'étend de plus en plus. En 1492, date bien connue, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Son premier but était bien sûr d'ouvrir de nouvelles terres à l'Évangile, étendre la religion chrétienne à tous les hommes de la terre, et son deuxième but était aussi de se procurer assez d'or, assez d'argent, pour acheter le Saint-Sépulcre aux infidèles. C'est peu connu, mais il faut le noter. Son premier acte, quand il est arrivé donc sur cette terre du Nouveau Monde, son premier acte fut de planter une croix, hein, le symbole de la chrétienté, et de se jeter à genoux pour rendre grâce à Dieu pour sa découverte, justement, qui va permettre l'évangélisation de tout ce peuple, avec bien sûr tous les déboires et tout ce qui ne va pas, bien sûr, dans cette histoire, mais il est à noter que grâce à sa découverte, l'évangile va pouvoir se répandre, bien sûr. Vers le même temps, les Portugais, Vasco de Gama, par exemple, arrivaient aux Indes orientales en 1498. Et donc, à la suite de ces explorateurs, beaucoup de missionnaires seront envoyés, pénétrèrent ces nouvelles terres pour justement leur donner notre Seigneur Jésus, donner l'Évangile. Voilà donc pour ce 14e et 15e siècle, au niveau, premièrement, des difficultés internes, hein, avec les papes d'Avignon, le grand schisme, les hérésies de Wycliffe et de Jean Hus, les difficultés aussi venant de l'extérieur, avec l'Empire ottoman et les musulmans d'Espagne. Voyons maintenant un petit peu la vie intérieure de l'Église à la fin du Moyen-Âge, et tout d'abord la vie intellectuelle de l'Église, c'est intéressant. Jusqu'au XIVe siècle, il faut savoir que le clergé seul était savant et lettré, même s'il ne faut pas généraliser, mais il est à noter que les laïcs entrèrent dans la littérature, notamment grâce à la fameuse œuvre de Dante, la Divine Comédie, hein, qui est à la source un peu de la langue italienne, et c'est grâce, on dit grâce à cette œuvre, que les laïcs vont commencer à pénétrer la littérature. Or, à ce moment, la théologie scolastique, souvenez-vous, la théologie scolastique, c'est celle qui allie la connaissance philosophique d'Aristote, donc la philosophie grecque, avec, la connaissance de la foi, qui s'est développée donc au XIIIe siècle grâce notamment à saint Thomas d'Aquin. Eh bien, cette théologie scolastique commençait à décliner en raison de sa stérilité et son manque d'originalité, puisqu'elle consistait la plupart du temps à commenter les grands maîtres. Et donc, face à l'école thomiste, à l'école scolastique, une autre école se fonde en Angleterre avec le fameux Guillaume d'Ockham, qui va fonder donc son école, l'école d'Ockhamiste. Cette école, n'utilisait presque que la méthode expérimentale, voyez, par la science. Et elle professait une sorte de scepticisme face à l'égard de l'invisible. Dieu, l'âme, la vie future, elle admettait ces réalités parce que c'est de foi, mais c'est tout. Hein. L'école ockhamiste se basait vraiment sur le côté expérimental. À cause de son aversion pour les idées générales reçues, eh bien, on va appeler son école le terminisme ou le nominalisme, parce qu'on donnait des noms sur des idées, et justement, lui, il va préférer l'expérience des sens. Et donc, c'est pour ça qu'on va le nommer, cette école d'Ockhamiste, on va les nommer les nominalistes aussi. Par réaction à Ockham, une autre école, si je puis dire, ou en tout cas, un mouvement, le mouvement de mystique, la mystique, qui cherche l'union de l'âme avec Dieu, va se développer énormément lors donc de ce XIVe siècle. Elle prit un immense développement. Et les productions mystiques de cette époque sont extrêmement nombreuses, et la plus célèbre que vous connaissez sûrement, qui est le petit livre, qui est le livre de chevet de tous les saints, L'imitation de Jésus-Christ, attribué à Thomas à Kempis, écrit vers 1421, on pense, est vraiment la quintessence, mais en tout cas fait vraiment partie de ce développement du mouvement mystique de cette époque pour contrer, à l'école ockhamiste. Vers la fin du Moyen-Âge, vous savez, c'est aussi le début, petit à petit, de ce qu'on appellera la Renaissance. On a ce mot vient du fait que les écrivains et les artistes se livrèrent avec ardeur à faire renaître les chefs-d'œuvre grecs et romains, à les faire renaître et donc à les imiter. L'art de la Grèce et de Rome donc semblait renaître un peu partout. Et la Renaissance est donc le retour au goût des anciens dans les arts et dans la littérature. Mais comme les anciens étaient païens, eh bien vous vous doutez bien que la Renaissance devint aussi païenne. Et c'est là où il va la décadence chrétienne va continuer et ce développement de la Renaissance ne va pas toujours être une grande aide pour justement le relèvement de l'Église dans cette période un petit peu troublée. Voyons justement la vie spirituelle et morale de l'Église à cette même époque. La Renaissance païenne, comme on vient de le dire, avait été fort préjudiciable pour les mœurs de l'époque. La vie licencieuse de beaucoup de princes scandalisait le peuple, mais cependant, il est à noter que la foi demeurait vive, vous voyez, et se manifestait par la multiplication de confréries, l'émergence aussi de nouveaux ordres religieux, des couvents, des églises. Je vous cite quelques nouveaux ordres religieux, justement, de cette époque. Les frères de la vie commune, qui plus tard s'appelleront les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Un nouvel ordre, les Annonciades, fondé par Sainte-Jeanne de Valois, morte en 1504. Et l'ordre des Minimes, fondé par Saint-François de Paul, lui mort en 1507. De même, à cette époque, on avait donc une vie chrétienne, bien sûr, intense. On pratiquait le jeûne, l'abstinence au jour indiqué, les fêtes religieuses. On verra tout à l'heure, beaucoup de fêtes religieuses seront étendues à toute l'Église universelle. Donc les fêtes religieuses revêtaient un éclat incomparable. Donc malgré le fait que la Renaissance sera préjudiciable aux mœurs, pourtant l'Église continue à se développer et à sanctifier les âmes. Justement, voyons les saints de cette époque. Parmi les grands saints de la fin du Moyen-Âge, on peut citer donc les fondateurs des ordres religieux, qu'on vient de citer, de grands évêques, saint Laurent de Justinien, saint Antonin, archevêque de Florence. On peut citer aussi de remarquables prédicateurs et missionnaires, saint Vincent Ferrier, bien sûr, mort en 1419, saint Bernardin de Sienne, mort en 1444. On peut citer aussi de pieuses personnes favorisées de visions célestes, comme on disait tout à l'heure, sainte Catherine de Sienne, bien sûr, sainte Brigitte, les fameuses oraisons de sainte Brigitte, saint Angèle de Foligno, etc. Et enfin, bien sûr, comment ne pas citer une héroïne que vous connaissez tous, sainte Jeanne d'Arc, libératrice de France, donc 1412-1431, et oui, elle a vécu. À cette époque, elle a vécu vraiment dans une époque troublée pour notre pays, mais aussi pour toute l'Église. Il nous faut aussi parler de quelques maux de l'Église. Un mal qui règne, c'est que la papauté, à cette époque, était presque sécularisée, se mondanisée, si vous voulez. Le vicaire du Christ se comportait un peu comme tous les autres princes italiens. Nicolas V, par exemple, fonda la bibliothèque vaticane, ce qui n'est pas un mal, mais on s'intéressait aux choses du monde, plutôt que forcément défendre la foi. Il s'entourait aussi d'humanistes païens. Alexandre VI, lui, scandalisa le peuple chrétien par sa vie privée, mais il est à noter que si ses mœurs étaient mauvaises, sa doctrine, pourtant, elle resta pure. Jamais il ne tomba, bien sûr, dans l'hérésie. Et si c'est ce qui portait Bossuet à dire, il semble que la Providence ait voulu montrer que si les hommes sont capables de faire du mal à l'Église, ils sont incapables de détruire l'œuvre de Jésus-Christ. On voit vraiment, à travers cette époque décadente de l'Église, eh bien que pourtant Jésus continue eh bien, à répandre son royaume dans les âmes malgré le péché des hommes. Un autre pape, Jules II, se montrait surtout diplomate et guerrier. Léon X, lui, s'occupait plutôt des arts que de questions religieuses. Les évêques suivaient un peu, bien sûr, le même exemple. Et le clergé inférieur, donc les prêtres, dans les paroisses, manquaient énormément de formation, puisqu'à l'époque, les séminaires n'existaient pas encore. Il va falloir attendre le Concile de Trente hein, pour commencer à voir surgir les séminaires pour la formation des prêtres, qui donc à cette époque-là, au XIVe, XVe siècle, manquaient de formation, parfois aussi de tenue et de dignité. Parmi les fidèles, bien sûr, l'ambition, la cupidité et l'immoralité faisaient d'énormes ravages chez les riches, si vous voulez, chez les grands. L'ivrognerie et l'avarice faisaient des ravages plutôt dans le peuple. Donc vous voyez qu'il y a grande souffrance, grande misère dans le royaume de France. Alors pourtant, officiellement, vous voyez, la papauté ne va pas se laisser aller et va toujours chercher à promouvoir la réforme de l'Église. Malgré trois papes, malgré justement le côté que l'Église se mondanise, eh bien les papes vont vouloir réformer l'Église. Mais évidemment que le séjour à Avignon, le grand schisme, la lutte avec les conciles, la Renaissance, bah, tout cela va un peu stériliser les efforts des papes pour une réforme. La réforme s'accomplit partiellement, grâce justement à la création d'ordres religieux nouveaux, par le retour aussi des ordres anciens à leurs règles primitives, et aussi par la prédication de saints missionnaires. Vous voyez, comme dit Bernanos, je voulais vous le citer à la fin, mais je vais vous le citer maintenant, il dit que l'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais elle a besoin de saints. Et on voit vraiment qu'à cette époque, ceux qui ont réformé de façon discrète, et presque souterraine, en commençant par le peuple, par la prédication aux âmes sur le terrain, eh bien, ce ne sont pas les hauts placés, mais tous ces saints qui vont pouvoir justement transmettre, continuer à donner la grâce aux âmes, et donc soutenir l'Église malgré cette époque décadente. Hein. Voyons aussi un petit peu l'organisation de l'Église ecclésiastique, disons, à cette époque. La papauté, vous l'avez compris, au Moyen-Âge, avait joui d'une véritable hégémonie, une suprématie, mais au XIVe siècle, son pouvoir, bien sûr, va perdre, considérablement s'affaiblir en raison de la théorie conciliaire et puis du grand schisme, etc. L'épiscopat, lui, eh bien, les évêques ne dépendront plus des archevêques et prendront un peu leur indépendance. Le clergé inférieur, les curés dépendaient à la fois de ces gens qu'on appelle les patrons, c'est ceux qui nommaient les curés, c'était le privilège de certains seigneurs et de certains pères abbés aussi de monastères. Et les évêques instituaient les curés. Et à l'encontre de l'aristocratie ecclésiastique, vous voyez les prêtres assez riches, pourvus de riches revenus, il y avait le bas clergé, très pauvre, à cause justement du grand nombre de petites paroisses qui n'arrivaient pas à entretenir leurs prêtres. Voilà. Parlons un petit peu aussi de la vie liturgique. Hein. Au XIVe siècle, il est à noter que la fête de la Très Sainte Trinité et au XVe, celle de la Visitation et de Saint Joseph devinrent des fêtes donc obligatoires pour toute l'Église. Donc la Sainte Trinité, la Visitation et la fête de Saint Joseph que nous allons célébrer très bientôt maintenant. Au XVe siècle, très important ça, très intéressant, la prière du « Je vous salue Marie » qui ne comportait que la première partie, se compléta par l'addition donc de la seconde partie. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ». Et de cette époque aussi, donc nous sommes à peu près en 1460, de cette époque date aussi la diffusion du rosaire par le dominicain Alain de la Roche, qui mourut en 1475. L'usage de réciter l'Angélus commença aussi à se répandre à cette même époque, le matin, midi et soir, et s'établit peu à peu à la fin du Moyen-Âge. Et aussi, au XVe siècle, le bienheureux Alvarez, un grand dominicain, organisa la récitation du chemin de croix. Les sacrements, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je me contenterai de quelques mots. La communion était peu fréquente, et la messe rarement dite par les prêtres. Il y a même un synode qui prescrivirent à tous les prêtres de célébrer au moins 3 fois par an la messe. Tellement les prêtres ne célébraient pas la messe. Ils assistaient à la messe le dimanche de confrères ou autres, mais beaucoup ne célébraient pas les saints mystères. Vous voyez donc quelle époque. Quant aux indulgences, qui a fait beaucoup de bruit, vous savez, les indulgences applicables aux défunts, hein, ces prières que nous pouvons faire pour justement sauver les âmes, les aider dans leur purification et surtout accélérer, j'allais dire, leur arrivée au ciel. Ces indulgences apparaissent au XVe siècle et lui parfois des abus, puisque souvent on accorda ces indulgences pour un motif presque exclusivement fiscal. Les papes du XVe siècle se procurèrent quelquefois de l'argent par ce moyen, c'est vrai. Ils accordaient aussi des indulgences à des œuvres pieuses ou des ordres temporels, la construction d'églises, d'hôpitaux, de ponts, etc. Mais vous voyez, comme ces indulgences supposaient toujours, pour avoir une indulgence, il fallait assister à une prédication, prescrivait la confession, la communion, toutes ces indulgences obtenaient en fait de bons résultats spirituels. Malgré les abus au niveau fiscal, beaucoup de résultats spirituels étaient obtenus. Quant à l'instruction, à la prédication des fidèles, pour instruire les fidèles des vérités de la religion, on représenta dans les églises des scènes empruntées à la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament. On appelait ces scènes des miracles ou des mystères hein, dans les églises. Mais petit à petit, il y eut des abus, donc on demanda à sortir de l'église et ça se déroulait sur le parvis ou alors sur la place du village. Mais au XVIe siècle, on finit par interdire ces miracles ou mystères. Les prédications en langue vulgaire, en langue du pays, se multiplièrent à la fin du Moyen-Âge. Il y eut beaucoup de prédicateurs très célèbres, comme le bienheureux Henri de Suzeau en Allemagne, Saint-Vincent Ferrier, qui prêcha avec tant de fruit devant des foules innombrables qu'il mérita le titre d'apôtre de l'Europe, hein, Saint-Vincent Ferrier. Le bienheureux Alain de la Roche, comme on l'a dit, qui propagea le mystère, et Savonarole, que vous connaissez peut-être, mort en 1498, qui était un grand prédicateur, mais sa prédication un peu fougueuse à l'excès, justement, causa sa perte, puisqu'il fut excommunié pour en raison de ses attaques contre le pape Alexandre VI, et il périt à Florence sur le bûcher. Comme d'autres prédicateurs, il y a Saint Bernardin de Sienne, Saint Jean de Capistran, qui prêcha, on l'a vu, la croisade contre les Turcs. Donc voyez-vous, notre Seigneur fait toujours surgir de belles âmes à toutes les époques pour pouvoir propager, protéger son Église durant l'histoire des hommes. C'est ce que nous pouvons voir durant cette période vraiment troublée, cette période où se manifeste vraiment l'humanité de l'Église, la patte humaine qui est composée de l'Église. L'Église est sainte parce qu'elle est divine, mais composée de pécheurs. Et en voyant d'un côté cette humanité pécheresse, le revers de la médaille, où on peut voir en retour aussi sa divinité, puisque malgré justement les péchés des hommes, elle continue sa mission hein, de transmettre la vérité et de donner la grâce aux âmes. On voit vraiment l'action des saints, on voit vraiment l'action de ces âmes de vie intérieure qui sont vraiment ceux qui alimentent l'Église, qui permettent à l'Église de perdurer. Donc voyez-vous, ça peut nous permettre évidemment de relativiser un petit peu notre époque, bien troublée aussi, c'est d'autres problèmes